Je vais parler d'un Tunisien qui est venu s'installer à Paris de son propre gré parce que c'était pas l'habitude. Généralement, on vient pour l'enseignement ou pour dans le cadre de missions militaires. Il n'y avait pas d'immigration, même individuelle, comme ça. Donc, je vais voir. C'est un aventurier quand même. C'est M. Suleiman Al-Harari. Il est né à Tunis en 1824. Il est mort à Paris en 1877. Bien sûr, il a passé entre 24 et 56 à Tunis, puis il s'est installé définitivement à Paris jusqu'à son décès. Il s'est distingué surtout, bien sûr, entre autres, il avait travaillé dans la presse et il a surtout traduit les œuvres en vogue en France à l'époque. Plusieurs parmi ces œuvres, les fables de La Fontaine, mais il y a des œuvres de médecine aussi, la grammaire de l'homme, etc. Mais moi, je vais parler de ces fatwas. Il y a des fatwas. La fatwa, c'est une question posée à un savant musulman et il devrait répondre selon, bien sûr, les concepts de l'islam. Il y a la question, la réponse et l'argumentaire. Mais parfois, ces fatwas sont accidentelles. Parfois, il donne son avis sans qu'on lui demande sur telle ou telle chose. Parmi ces fatwas, bien sûr, la consommation de la viande des bêtes abattues par les chrétiens, le fait de porter le chapeau à l'occidental, puis fatwa concernant le vin, et cette fatwa, je ne l'ai pas consultée, mais j'ai lu qu'elle était rédigée dans une lettre adressée par l'auteur à Napoléon III. Et d'autres interdisons le café, et ou blâmant l'attitude des musulmans à l'égard des chrétiens au Liban à l'époque, les événements de 1866. Donc, je vais commencer par M. Suleiman Harari. D'abord, il a une vocation pour les sciences exactes, et ses biographes racontent qu'il avait enseigné les mathématiques à la mosquée Al-Zaytoun à l'âge de 15 ans. Parmi ses biographes, bien sûr, Louis Cheikhou, Philippe de Tarazi, et surtout le dictionnaire universel des contemporains de lui, de Vapereau, l'édition de 1865. Donc, cette biographie, elle était rédigée alors que l'auteur était vivant. Et on raconte qu'il avait enseigné les mathématiques à cet âge-là, à l'âge de 15 ans. Mais, bien sûr, l'accident de sa vie, c'est cette rencontre en 1841, il avait 17 ans, avec l'abbé Bourgade, qui est venu d'Algérie en ce moment-là. Bien sûr, il a commencé à apprendre la langue française. En 1844, à l'âge de 20 ans, il a été chargé par le consulat de France de former des interprètes. Il dit qu'il a formé des militaires, mais parmi sept militaires et des consuls, parmi ces consuls, Léon Roche, qui sera consul de France en Tunisie plus tard, et Alphonse Rousseau. Il a écrit un livre sur l'histoire de la Tunisie. C'est-à-dire, c'est comme une relation de voyage en Tunisie au 19e siècle. Et il sera aussi consul de France à Istanbul, puis à Jeddah. Il a, bien sûr, selon je reviens au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, dans la société de l'époque, on sent qu'il a transgressé les barrières sociales et religieuses. L'amitié avec un chrétien, missionnaire de surcroît, l'apprentissage de la langue française, il a appris cette langue, il devient donc un interprète, etc. Le travail dans le consulat de France à partir de 1846, Puis la dernière frontière à franchir, c'est ce départ volontaire pour Paris en 1856. À Paris, il a été accueilli par son ami Bourgade, soutenu par Jules de Lesseps, fils de Mathieu de Lesseps, ancien consul général de France en Tunisie, et par un certain Rocheid Dahdah, c'est un affairiste libanais, maronite, etc. Il était proche de la cour de Tunis et des milieux impériaux de l'époque. Il faisait donc... c'était un affairiste, voilà, enfin. Puis, ce qui les a réunis, c'est un journal bimensuel arabophone. Au début, c'était bilingue, mais à un certain moment, ça devient un journal totalement à Brigis Beris. Brigis Beris, on le traduit par l'aigle de Paris, et qui. L'aigle impérial, en quelque sorte. Son responsable, c'est François Bourgade, les deux rédacteurs. Le principal, c'est Souleymane Al-Harari. Le second, c'est Rocheid Dahdah, parce qu'il s'intéresse aux affaires plutôt qu'au journalisme. Le Burgis était probablement financé par les milieux financiers impériaux de l'époque, et 200 abonnements étaient payés par la compagnie de Suez, qui était donc dirigée par les Lesseps. Les buts annoncés de ce journal, présenter au lecteur, dans le numéro 1 de Burgis, présenter au lecteur toute information utile concernant la paix et la guerre, informer de tout ce qui se rapporte à l'évolution des sciences et des découvertes, renseigner de tout ce qui a trait au commerce. La ligne éditoriale de ce journal défendait clairement l'occupation française de l'Algérie. Donc, peut-on parler d'un réseau? J'ai parlé, est-il un passeur de frontières, mais aussi est-il là dans un réseau quelconque, un réseau saint-simonien, le but des saint-simoniens, faire de la terre un grand marché? À l'occasion de l'exposition universelle, Slimane Al-Harari écrivait « Monsieur le baron de Lesseps est bien connu pour son amitié pour les Arabes. Il leur indiquera ce qu'il faut faire et il sera leur représentant auprès des commissions de la Commission impériale de Paris. » Enfin, concernant Slimane Al-Harari, après la disparition de l'abbé Bourgade en 1866, il y a eu la fermeture du journal, puis c'est l'indigence pour Souleymane Al-Harari. Il donne des cours particuliers à quelques élèves, dont les enfants de Mustapha Khaznadar, qui est venu de Tunisie pour s'installer en France. Puis, en 1871, obtient le poste de répétiteur d'arabe à l'école des langues orientales. Enfin, c'est la maladie, la disparition, dont... Bien sûr, l'oubli et je vais passer au fatwa de Souleymane Al-Harari. En 1857, il dit qu'il n'est pas... Ici, c'est dans l'introduction de la grammaire, lorsqu'il a traduit la grammaire de l'Oman. Il n'est pas seulement permis d'avoir un ami mécréant, kefir, mais mieux encore, il est licite de l'avoir comme souverain, à condition qu'il respecte... la sharia. Les musulmans devraient aussi lui venir en aide contre ses ennemis en cas de guerre ou tout ça. C'est une de ses positions et qui va se répéter dans d'autres textes. Puis aussi dans le même texte, dans l'introduction de la grammaire de l'Oman, il exprime une admiration pour l'enseignement en France. Il appelle à l'éducation de la femme et à son émancipation, et vraiment, c'est, là, il dévance les réformateurs musulmans au moins d'un demi-siècle, avant Qasim Amin et bien sûr Tahar Hadès, d'au moins un demi-siècle. Il est le premier, il a parlé qui parle de ces problèmes-là. La fatwa la plus importante ici, c'est en 1861, la réponse aux égarés pour la totale permission de l'immolation des bêtes par les chrétiens. Voilà. Donc, là, dans cette fatwa, bien sûr, il s'appuie sur les textes fondateurs de l'islam, à commencer par un texte de l'imam Ibn al-Arabi. Il est, c'est pas Ibn Arabi al-Soufi, c'est un autre, c'est un faqih, faqih malikite. Le texte, il est rapporté dans même Al-Ma'yar al-Wanshari. Puis, il s'appuie sur le Coran, donc 5, wa ta'am alladhina utul kitaba halun lakum wa ta'amukum halun lahum, et permis là, j'ai ici la traduction d'Hamidullah, je l'ai utilisée intégralement. Est permise la nourriture de ceux à qui le livre a été donné, et votre nourriture leur est permise. Il s'appuie aussi sur Al-Ma'yar de l'Ouen-Cherissi, qui n'a été publié qu'aux années 80, donc en ce moment-là, c'est une copie manuscrite qu'il a utilisée alors qu'il était à Paris. Donc c'est un érudit quand même. Il connaît les textes, il connaît tous les textes. Il a utilisé donc fatwa, la question a été posée à Abu Abdullah al-Hafa, et lui il utilise dans son texte al-Ajjar, et c'est pas vrai, c'est un peu faux, parce que lorsqu'il est lit dans le manuscrit, le point il a utilisé comme jim, alors que c'est fait. Même question et même réponse que Ibn Arab. Il y a les références malikites, donc qu'il a utilisées. Puis les autres rites, le Hanafiya, le Hanbaliya, etc. Il n'y a pas de fatwa, mais lui, il dit que en cas de besoin, ils doivent imiter la fatwa des malikites, puisqu'il y a ici un texte des malikites. Surtout qu'il s'adresse surtout aux hanafites, parce que les immigrés de l'époque étaient venus surtout de la Turquie, puis il y a des persans, etc. Donc il insiste sur ce point-là. Deuxième fatwa, donc le texte, je l'ai là, donc je ne peux pas, j'ai juste... la réponse aux gens embarrassés au sujet du chapeau des chrétiens. Donc, sa logique, c'est que le chapeau n'existait pas à l'époque, au début de l'islam. C'est une création, hadith, c'est une création. Donc, ni le Coran, ni le sunnah, ni les grands savants ne l'ont prohibé. Et c'est vrai, ça, on ne connaît pas ce qui est. Donc, il s'appuie sur un hadith. Le hadith dit « Dieu ne regarde pas vos apparences, mais vos cœurs ». Donc, il ne faut pas voir dans quelque chose d'apparent comme le chapeau, ou comme le pantalon, ou n'importe quoi, donc comme signe de kufr. Parce que si elle est posée comme signe de kufr. Il faut qu'il n'y ait pas la volonté de négligence, de moquerie ou le désir d'embrasser les mauvaises croyances, c'est-à-dire christianisme ou judaïsme ou autres croyances. Il s'appuie aussi sur Ibn Najim. C'est un faqih hanafite égyptien, il est décédé en 1562, qui dit qu'il n'y a de plus grave que l'incrédulité. Je ne pourrai jamais taxer un croyant d'impiété tant qu'il y a une seule possibilité de le disculper. Puis il s'appuie aussi sur un hadith de Aïcha, et là je ne l'ai pas mis ici, mais surtout c'est ce texte-là. Et là, en pratiquant la règle, les doutes repoussent les peines. C'est une règle juridique, lorsqu'il y a doute, donc on doit repousser les peines. Le troisième fatwa, l'avis vérifié pour l'interdiction du café torréfié, ou comme sous-titre, comment prévenir les insouciants des erreurs commises en consommant le café torréfié ces dernières années. Il dit que le café torréfié, ou fortement selon le texte, est nocif pour la santé. Donc, l'interdiction s'appuie ici sur la règle théologique. Éviter le mal est bien meilleur que procurer le bien. Taqdim dar al-mafasid ala jalb al-masalih. Et donc, pour moi, elle est montée, cette fatwa du café, elle est montée de toutes pièces. C'est une fatwa tunisoise. Il y avait une petite bataille du café, mais il l'a publiée à Paris. Donc, dans le cadre parisien, elle n'a pas de sens. Il y a, j'ai parlé de fatwa concernant le vin, la fatwa blâmant la conduite des musulmans, elle est rapportée dans une brochure Les Arabes et la colonisation en Algérie. Donc, dans toutes ces fatwas, Souleyman al-Haraï était enclin à accepter de composer avec l'autre, l'infidèle, concilier le passé avec le présent en osant parfois les remises en cause les plus téméraires, avancer une explication non théologique du monde, des événements et du progrès, et ça dans d'autres écrits. L'effet, je vais terminer par l'effet de ces fatwas, la réaction de ses contemporains. Les musulmans vivant en France à l'époque, il était à peu près, d'après lui, en France, à peu près 300. On n'a pas de... donc, on ne sait pas quelle est la réaction, mais ce sont eux qui ont posé la question. Le reste du monde, il y a les adversaires, surtout à Tunis, Mohamed Snoussi, Rahl al-Hijazi, il a vécu entre 1851 et 1900, et Mohamed Belkhouj, aussi c'est un savant tunisien qui a vécu à la même époque, il était l'ami de Mohamed Snoussi. Donc c'est, par exemple, Snoussi, il avait dit que, voilà, Souleyman al-Haraï a donc permis le chapeau à l'occidental et il a interdit le café, il aurait dû inverser pour avoir raison, il s'est moqué de lui. Et les défenseurs, nous avons... Mohamed Abdou n'était pas un défenseur, mais il a pris les mêmes positions. Mohamed Abdou était le grand réformateur, mufti d'Égypte aussi, à l'époque, et il a donc émis la fatwa du Transvaal suite à une question d'un habitant du Transvaal sur la question de la viande et le chapeau. Et il avait émis la même réponse. Je pense qu'il a qu'il a connu les positions de Souleyman al-Haraï. Il est venu donc à Paris en 1884. Il a visité Tunis en 1884. Il a visité encore Tunis en 1902, je crois, juste au moment de cette fête. Peut-être qu'il connaît ce... Oui, les échos en France, dans une brochure, Les Arabes et la colonisation en Algérie, dans le dictionnaire universel des contemporains, où on trouve une biographie de Souleyman al-Haraï, où c'est... pour conclure, je dirais que Souleyman al-Haraï était aussi un citoyen du monde. Il disait, enfants de la terre, nous sommes tous frères. Il s'est distingué par son aptitude et son audace à briser les frontières linguistiques, religieuses, culturelles, ses armes, la tolérance, la compréhension, l'appel au réformisme, sa manière de raisonner, c'est favoriser le quotidien sur le global, l'humain sur le divin, le rationnel sur le passionnel. Une question qui me reste donc sans réponse, cette fatwa par exemple, on l'a vu au 4e siècle, au 5e siècle, au 8e siècle, au 19e siècle, au début du 20e siècle, encore on se pose une question et on voit pourquoi il y a les avis de ces avis de ces gens-là, des savants, etc. Et pourquoi on repose toujours la même question. Les documents.
Vous avez encore une petite minute. Vous avez une minute exactement.
Voilà. Les deux autres dossiers, s'il vous plaît. Juste des documents à voir, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc, documents concernant ces fatwas concernant Souleyman al-Haraï.
Utiliser ça plutôt.
Donc, c'est...
préciser ça, parce que sinon vous avez...
Voilà. Le Belgis Belize et le... Voilà, ici. C'est le dictionnaire de contemporain. La biographie de Souleymane Lahaï. Oui, ici, il a été inhumé au cimetière des musulmans, donc on l'a taxé d'être un non-musulman, mais cette attestation montre qu'il était jusqu'à la dernière heure.
Dans la chaise.
Oui, voilà. Au carré, voilà. Juste un autre document, tout simplement, juste
rapidement.
Non, non, juste
parce qu'on est en retard. On a 10 minutes de retard.
Couverture, voilà. 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 Donc ici, c'est fatwa de Mohamed Abdou. Presque la même chose. Il y a le chef de l'Umma l'Islamie, il a appelé l'Aïmma fil Fatwa 30. Il y a la réaction et surtout ici les appuis de M. Mohamed Abdou, fait par un notaire Kirot qui a réuni les défenseurs de Mohamed Abdou parce que même Mohamed Abdou a été attaqué. Et c'est. Voilà, merci pour votre
attention. Je vous remercie, monsieur.
Mais moi, j'aurais aimé vous entendre nous parler de la fatwa sur le vin. Ça aurait été intéressant. Vous ne l'avez pas retrouvé, la fatwa sur le vin hein? Vous ne l'avez pas retrouvé?
Non, mais c'est inséré dans une lettre adressée à Napoléon III. Donc, ce n'est pas une fatwa officielle, mais c'est une prise de position.
Donc, c'est de l'ésotérique, alors?
Non, parce que fatwa sur la viande, il parle du vin comme on boit. Concernant le café, lorsqu'on boit le deux fois par jour le vin, donc parce que aussi c'est que l'autre. Et donc, le café n'est pas nocif, etc. Il est prédisposé.
D'accord. Très bien, on reprendra la discussion.